Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, pouvons-nous nous passer des pesticides? Le débat sur les dangers des pesticides est relancé depuis l'arrêté interdisant les pesticides à 150 mètres des habitations par le maire de Langouette, ou plutôt leur épandage d'ailleurs, pour sa commune de 600 habitants en Bretagne. Arrêté aussitôt pris, aussitôt suspendu par la justice administrative, d'où l'appel la semaine dernière dans Le Monde de plusieurs personnalités, dont Nicolas Hulot, demandant à l'État de renoncer à poursuivre les maires courage, à l'instar de Daniel Cueff, qui veulent protéger les riverains des épandages. Alors, quelle distance réglementaire instaurée? Le gouvernement lance aujourd'hui une consultation. Parce que les pesticides ne sont pas sans effet sur l'environnement, la biodiversité ou encore la santé humaine, le mouvement Nous voulons des coquelicots demande aujourd'hui encore l'interdiction de tous les pesticides de synthèse. Son président, le journaliste Fabrice Nicolino, est notre premier invité, auteur ce mois-ci de Le crime est presque parfait, l'enquête choc sur les pesticides et les SDHI, un ouvrage qui paraît au Lien qui libère. Bonjour Fabrice Nicolino.
Bonjour à vous.
Vous allez nous expliquer ce qu'est cet acronyme, ce sigle, dans quelques instants. Avec vous, Stéphane Foucard, journaliste au Monde. Bonjour.
Bonjour.
Auteur en cette rentrée de Et le monde devint silencieux, comment l'agrochimie a détruit les insectes, un ouvrage paru au Seuil en coédition avec Le Monde, où vous montrez notamment l'impact des insecticides sur les pollinisateurs, des victimes collatérales car non ciblées. On en reparlera ensemble. Ce mois-ci, justement, une voix a continué à donner de la voix, devenu le symbole de la bataille de l'épandage. Le maire de Langouette, 600 habitants en Bretagne, prenait en mai dernier un arrêté anti-pesticide, interdit à moins de 150 mètres d'une habitation. Arrêté qui a donc été suspendu par le tribunal administratif de Rennes, saisi par la préfète d'Ille-et-Vilaine. En août dernier, ce maire interpellait le président de la République sur cette question, qui lui répond « d'accord sur le fond, pas d'accord sur la forme ».
Monsieur le Président, en ma qualité de maire de Langouette, j'ai récemment pris un arrêté d'interdiction des pesticides dans un rayon de 150 mètres autour des habitations au titre de la protection des populations. Madame la préfète de la République vient de saisir le tribunal administratif pour suspendre cet arrêté. Trouvez-vous cela normal?
Alors, c'est simple. D'abord, le préfet fait son métier. Il y a des lois, il doit les faire respecter. Donc je serai toujours derrière les préfets qui font respecter les lois. Par contre, là où monsieur le maire a raison, et je pense que la solution n'est pas de prendre un arrêté qui n'est pas conforme à la loi, c'est de mobiliser pour changer la loi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a commencé à faire, puisqu'on a mis en place un système justement pour réduire progressivement les pesticides. Et moi, j'ai demandé justement à la préfecture de trouver une solution concrète pour cette commune. Ce qui est vrai, c'est que nous devons aller vers un encadrement des zones d'épandage des pesticides. On l'a vu pour les populations qui vivaient à proximité des vignes, il y avait beaucoup d'épandage. Il y a des conséquences sur la santé publique. Il faut arrêter de dire des bêtises, il y en a. Donc, monsieur le maire, il a raison sur ses motivations. Donc, c'est à nous de réussir maintenant à changer la loi, d'avoir aussi des discussions avec les agriculteurs, les producteurs, pour que ça leur permette de fonctionner, parce que tout ça, ça a un coût pour eux, ça veut dire qu'ils doivent mieux encadrer les choses, mais je pense qu'il faut le faire maintenant très vite. Donc, je le soutiens dans ses intentions, mais je ne peux pas être d'accord quand on ne respecte pas la loi, c'est normal. Et ça, on va le changer vite.
Voilà, on va agir vite, disait le président de la République. Aujourd'hui, justement, une consultation citoyenne a été lancée sur le site du ministère de l'Agriculture sur cette distance minimale d'épandage entre les champs et les habitations. Fabrice Nicolino, et alors c'est là que on tombe un peu des nues quand on essaye de comprendre. Le maire parle, lui, d'une distance entre 100 à 150 mètres, et sur ce qui est envisagé pour l'instant par le gouvernement, la distance, selon les cultures, serait entre 5 à 10 mètres. Il y a un zéro qui a disparu dans l'affaire.
Moi, je vous dirais, pourquoi ne pas calculer en centimètres ou en nanomètres? Le nanomètre, c'est un milliardième de mètre. Non, franchement, c'est ridicule. Là, vraiment, quand on a appris cette nouvelle, enfin, si on peut appeler cette nouvelle, on était absolument effarés. Bien sûr qu'on peut en rire, on en rit dans un premier temps, dans un deuxième temps on est quand même un peu plus inquiet parce que le président de la République reconnaît, dans ce qu'on vient d'entendre, qu'il y a des problèmes de santé publique. Alors imposer une limite de 5 à 10 mètres, quand on sait, et tout le monde le sait, et des centaines d'études internationales l'ont montré et démontré et démontré et démontré, que les pesticides que vous épandez sur un champ sont repris en partie par vaporisation dans les nuages, poussés par le vent, retombent dans notre pluie partout, qui s'infiltrent dans l'eau, dans les ruissellements, qu'on les retrouve dans les aliments, dans les légumes qui poussent dans les arbres fruitiers, etc., etc. C'est simplement, j'essaye de rester poli, c'est comme le président de la République, c'est simplement se moquer absolument de la société, telle qu'elle est, non pas telle qu'il la rêve, mais telle qu'elle est. Je rappelle rapidement que le mouvement des coquelicots, C'est un mouvement qui réunit aujourd'hui 850 000 personnes, qui réunit tous les mois, le premier vendredi de chaque mois, des centaines de rassemblements simultanés en France, entre 500 et 850. Les enquêtes d'opinion montrent que autour de 90% sont pour la sortie des pesticides. Et vous avez un président de la République qui parle d'une distance de 5 à 10 mètres. Franchement, c'est honteux. C'est honteux pour la République. Hein.
Là, vous dites, le mouvement est pour une interdiction totale. On va revenir sur les possibilités, la faisabilité d'une telle interdiction, et notamment aujourd'hui pour les agriculteurs. La décision du gouvernement de peut-être fixer la distance réglementaire entre 5 et 10 mètres selon les cultures vient des préconisations de l'Agence de sécurité sanitaire. Vous avez cité les scientifiques à l'instant, Fabrice Nicolino. On se retrouve à nouveau, Stéphane Foucard, dans une bataille d'expertise.
Même pas vraiment, je crois, parce que quand vous regardez un petit peu ce qu'a publié l'ANSES sur le sujet, il n'y a pas grand-chose, en fait, il n'y a même rien qui permette d'évaluer la différence qu'il peut y avoir entre un épandage à 5 mètres, à 10 mètres, à 20 mètres ou plus loin. En fait, ça n'apparaît pas dans la vie, puis ça dépend d'une variété de paramètres qui manifestement sont pas pris en compte, en tout cas pas pris en compte dans la communication publique du président ou des autorités. Hein. C'est-à-dire, tout ça dépend évidemment des produits, de la manière dont ils sont épandus, à quel moment, etc. Donc non, moi je crois comme Fabrice Nicolino qu'on est là dans une situation qui illustre bien ce phénomène qui est que la force de vente de l'agrochimie est supérieure à la volonté de l'État. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe en France depuis très longtemps. Je vous rappelle que le plan Ecophyto hein, qui avait été décidé en 2008 prévoyait une baisse de 50% du recours aux pesticides en 10 ans. Donc les 10 années se sont écoulées et on n'a pas baissé de 50%, on n'a pas baissé du tout, on n'est pas resté stable, on a augmenté d'environ 18%. Donc, vous voyez, quelque chose qui relevait d'une décision forte, prise au terme donc du Grenelle de l'environnement, donc d'une prise au terme d'un consensus entre les parties prenantes, quelque chose qui incarnait la volonté de l'État et de la société, a été littéralement foulé aux pieds.
Est-ce que les maires peuvent aujourd'hui devenir, et doivent même devenir des relais de ces revendications, de cette bataille contre les pesticides et les insecticides, à vos yeux? Parce que c'est bien la compétence aussi là du maire Daniel Cueff qui est interrogé par cette décision judiciaire. D'autres estiment que c'est pas une rébellion qui est en train de se jouer dans différentes communes de France aujourd'hui, mais bien l'expression d'une volonté politique. À partir de quand un maire peut-il décider de ce type de réglementation sur le périmètre de sa commune, Fabrice Nicolini?
Ah ben, pour moi, c'est pas fondamentalement une question juridique, c'est une question civique, une question élémentaire. Politique, mais élémentaire. Si un maire n'a pas le devoir impérieux de protéger sa population contre des effets évidemment délétères sur la santé de ses citoyens, s'il n'a pas le devoir de faire ça, qu'il change directement de métier. Je veux dire, on a le devoir, donc ça s'impose. Je veux dire, la protection de la santé publique devrait s'imposer à tous, donc les maires devraient être soutenus, ils le sont d'ailleurs, ils devraient être portés en triomphe parce que ce qu'ils font est bien, est courageux, nécessaire. J'ajoute que on est passé d'un moment où c'était des maires de petits bourgs ruraux, vous avez parlé de Langouette, il y en a d'autres, mais on est passé à une autre situation, selon moi, extrêmement intéressante, c'est que des maires de banlieue, de la banlieue parisienne, les maires de Sceaux, le maire de Sceaux pousse d'autres maires de banlieue qui se sont engagés derrière lui, les maires de Gennevilliers, les mairies de Gennevilliers, d'Arcueil, ce sont des villes très importantes, Malakoff, sont des villes importantes parce que ça signifie en clair que l'affaire n'est pas l'affaire des bourgs ruraux, n'est pas l'affaire de la campagne, c'est une affaire absolument nationale, car justement, comme je vous l'ai dit juste avant, les pesticides voyagent dans les nuages et dans l'eau de pluie, et l'eau de pluie qui tombe sur la tête des gens, ici on est à Paris, et bien quand l'eau de pluie tombe, vous avez des molécules pesticides dedans, et vous les recevez sur vous sans aucun doute possible. Donc c'est ce que révèle la mobilisation de villes de banlieue, de la banlieue parisienne, il y en a beaucoup d'autres qui ont rejoint l'appel des coquelicots, hein, Toulouse, Grenoble, Paris, des villes de droite, de gauche, des villes écologistes, on s'en moque en vérité. Ce que ça montre, c'est que le problème, il est national. La France entière est empoisonnée par des produits chimiques, pesticides, qui sont néfastes pour la santé des humains. C'est pas plus compliqué.
Alors ce n'est pas une fronde, mais l'expression d'une volonté politique, ce sont justement les mots du maire de Sceaux, que vous évoquiez à l'instant, qui a pris lui-même un arrêté en mai dernier, Philippe Laurent. Il faut rappeler que l'Île-de-France est une grande région agricole aussi. Hein. Mais du coup, quelle est la bonne distance à adopter? Est-ce que ça, vous pourriez l'évaluer à partir des études que vous avez pu lire l'un et l'autre, Stéphane Foucard?
Non, je pense que c'est très difficile, c'est même, je pense, impossible en réalité de répondre à cette question. Je crois que ce que montre l'histoire des 40 dernières années en termes de gestion des pesticides, c'est que précisément, quand vous mettez dans l'environnement, quand vous répandez une très grande quantité de matière très active, la science échoue presque toujours à prévoir ce qui va se produire en cascade dans les 10, 15, 20, 30 ou 40 prochaines années. C'est toute l'histoire des néonicotinoïdes, hein, ces fameux tueurs d'abeilles, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un instant T, il y a une forme de consensus réglementaire pour autoriser ces produits à être mis sur le marché, à être déployés sur des millions d'hectares de manière préventive, etc. Et il faut, avec des niveaux de preuves très très élevés bien sûr, hein, il faut 20 ou 30 ans pour se rendre compte que c'est un désastre. Voilà. Et donc, en réalité, ces histoires de normes, de doses journalières admissibles, de distances de sécurité, etc., etc., en réalité, ce sont des cautères sur des jambes de bois. Enfin, je veux dire, c'est très compliqué de prévoir ce qui va se produire avec l'utilisation intensive et massive qu'on fait de ces produits très actifs.
Qu'est-ce qui va se produire ?
Des répercussions, bien évidemment, en termes sanitaires, mais avant cela, hein, avant qu'on voit des effets sur la santé, parce que les effets sur la santé, souvent, ce sont des effets qui interviennent sur l'enfant à naître, donc il faut attendre que les enfants naissent, les enfants grandissent, tombent malades, etc. Donc, y a, avant de voir tout ça, il y a bien évidemment les premiers effets qu'on voit sur l'environnement et qui, là, sont indiscutablement massifs. Et c'est peut-être même ça, d'ailleurs, qui, à court et moyen terme, pose le plus de risques, en réalité. Comment continuer à faire de l'agriculture dans des paysages où il n'y a plus d'insectes ? C'est une vraie question, et c'est une question qui se pose de manière extrêmement pressante et urgente. Pour rappeler en deux mots quelques chiffres, en 2017, la grande étude allemande qui a été faite sur 63 zones protégées de paysages qui sont caractéristiques des paysages de l'Europe occidentale a montré une baisse de 75% de la biomasse d'insectes volants capturés en 27 ans. Donc c'est un effondrement qui est absolument massif et qui n'est pas soutenable. On ne peut pas faire de l'agriculture dans des paysages qui sont morts.
On va partir dans les traces de Boris Jolivet, qui est audio-naturaliste. Alors voilà, il a suivi lui aussi cette nature en mouvement et enregistré ses sons et noté la disparition d'une partie des insectes, des animaux. Cet extrait d'un reportage diffusé sur Envoyé spécial il y a un an.
Là, avant, on avait une friche bien plus grande, hein, qui prenait beaucoup plus d'espace, moins de culture. Et dans cette friche, des arbustes, c'était beaucoup plus buissonnant. Du coup, on avait le tarier des prés. On avait le bruant proyé. C'est donc un petit passereau qui niche au sol, qui se nourrit d'insectes. Après, là, dans l'axe, on avait des haies encore, le long de la culture. Là, on pouvait avoir de la pigrièche écorcheur et la fauvette grisette. Et puis enfin, dans cette zone de colza avec une petite prairie, là, c'était très commun, la caille des blés. Et puis beaucoup de grillons aussi, les champs des grillons, ça prenait tout l'espace. On pouvait voir les sauterelles dès qu'on traversait la prairie, ça sautait de partout. Aujourd'hui, quand je parle à des enfants, tiens, comment chante un criquet ? Ils savent pas. Alors que moi, gamin, on regardait ça, voilà, il frotte sa patte et tout, c'est magique. C'est toute une part de magie, de beauté qui s'efface.
Voilà un changement de décor, ce que montre en son et en silence je perds sa fonction. Nous montre, bref, Boris Jolivet, cet audio naturaliste. Voilà, à travers les sons qu'il a pu capter, les zones sauvages ont disparu, mais elles sont aussi, et c'est ce qu'il raconte à travers ses reportages, grignotées, consommées par l'extension des domaines cultivés. C'est aussi ça. Pour ça que vous vous battez avec votre mouvement, Fabrice Nicolino, pour qu'on retrouve toute cette richesse.
Écoutez, on a lancé cet appel il y a maintenant un an, enfin ça fera un an le 12 septembre. C'est un appel, l'appel des coquelicots, c'est un appel qui est explicitement pour la beauté du monde. C'est-à-dire on réclame dans cet appel qu'on nous rende la beauté du monde. Car en effet, la beauté du monde, cette beauté dont cet audio-naturaliste nous parlait à l'instant, eh bien elle disparaît à une vitesse vertigineuse, Stéphane Foucart l'a dit. Mais si, je veux dire, j'ai envie de vous dire, on ne peut plus se contenter de dire « ça disparaît à une vitesse vertigineuse ». Le moment est venu, me semble-t-il, de façon évidemment tout à fait responsable, non violente, démocratique, le moment est venu de s'opposer à cette machine de guerre, car c'est une machine de guerre. Et en effet, si on ne réagit pas maintenant, quand je dis maintenant, c'est aujourd'hui, aujourd'hui même, eh bien, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer demain. C'est-à-dire, bien sûr, je ne suis pas un spécialiste de ces questions, mais j'imagine sans peine qu'on est face à un traumatisme psychique. La psyché des humains va forcément être modifiée en profondeur et dans le mauvais sens, selon moi, par cet incroyable adieu aux insectes, à toute cette beauté prodigieuse à laquelle on ne faisait plus attention. Je veux dire, je suis né en 1955, je me souviens personnellement de près, à 50 km de Paris, où il y avait quantité de grenouilles, d'insectes de toutes sortes, des papillons, n'en parlons pas, il y avait une infinité de choses qui ont disparu. Et ça, c'est très difficile de faire comprendre ça à des jeunes qui n'ont jamais connu ce moment de grâce où existait cette beauté. Mais on a le devoir de le dire et on a le devoir.
Est-ce que les causes sont clairement établies?
Ah oui.
Parce que vous, là, le sous-entendu est extrêmement lourd. Écoutez, est-ce que les causes sont scientifiquement établies?
La réponse est oui. Stéphane Foucard parlait de cette étude allemande. Il y a une étude conjointe du Muséum national d'histoire naturelle et du CNRS qui nous dit que le tiers des oiseaux communs en France ont disparu en l'espace de 15 ans, que le rythme de disparition s'accélère et que le responsable massif, majeur, central, bien sûr qu'il y a des causes secondaires, mais le grand responsable, la grande machine de guerre, c'est les pesticides, c'est l'usage des pesticides dans l'agriculture industrielle. Ça, il n'y a pas de doute au plan scientifique ou alors que des scientifiques viennent le dire, mais tous les scientifiques sont d'accord sur ce que je suis en train de vous dire, tous les scientifiques qui travaillent sur ces questions de manière précise. Et donc, quand on est en phase d'un phénomène comme ça, mais c'est même à vous, c'est à vous que je m'adresse, c'est tout le monde en fait. Quand on est en face d'un phénomène comme ça, est-ce qu'on peut baisser les bras? Est-ce qu'on peut accepter? Bien sûr que non.
Stéphane Foucard, vous vous appuyez tous les deux sur le travail de scientifiques indépendants qui alertent sur les causes du déclin de certaines espèces. Et c'est le cas notamment de cette confrérie des insectes que vous présentez dans votre ouvrage et Le Monde de vin silencieux qui paraît au seuil ce mois-ci. Qui sont-ils? Comment travaillent-ils?
Ce sont des scientifiques qui ont pris leurs responsabilités. Ce sont les gens qui ont les capacités intellectuelles et puis et pour fonction dans la société de travailler sur précisément les effets environnementaux ou sanitaires des pesticides. Et ce sont des gens qui, vers la fin des années 2000, se sont rendus compte que les autorités réglementaires, sanitaires, ne prenaient pas leurs responsabilités. C'est-à-dire qu'il se produisait des choses de très grande ampleur dans l'environnement que chacun pouvait remarquer, chaque automobiliste de plus de 40 ans peut remarquer que son pare-brise est propre quand il fait Paris-Lyon. Ce qui était quelque chose de complètement impossible il y a ne serait-ce qu'une vingtaine d'années. Donc chacun peut remarquer qu'il se passe quelque chose de massif dans l'environnement et les autorités réglementaires ne tiennent pas compte de cela. Et donc ces scientifiques, ils se sont réunis de manière informelle et peu à peu, ils ont créé une forme de consortium international. Donc c'est plus de 70 scientifiques, 25 nationalités. Et leur travail, leur travail sur ce sujet en particulier, c'est un travail de lanceur d'alerte, scientifique. C'est-à-dire que ce sont des gens qui font ce que font les scientifiques. Ils étudient, ils lisent la littérature savante, ils la rassemblent et ils publient des ce qu'on appelle des reviews, c'est-à-dire des synthèses de la connaissance sur ces sujets dans la littérature scientifique. Voilà ce qu'ils font.
Et ce qu'ils dénoncent aujourd'hui, c'est justement que les pollinisateurs, alors on pense à nos chères abeilles, pas ciblées à l'origine évidemment par ces produits, en sont aujourd'hui des victimes collatérales. Comment est-ce possible que ces molécules n'aient pas été testées d'abord avant d'être mises sur le marché, qu'elles aient été commercialisées? Quoi, en connaissance de cause?
En parfaite connaissance de cause. Vous venez de le dire, les tests réglementaires qui permettent l'autorisation de ces molécules sont aveugles. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'essentiel de la communauté scientifique compétente. Et c'est même l'autorité européenne de sécurité sanitaire des aliments, c'est-à-dire l'agence réglementaire officielle de l'Union européenne, reconnaît depuis 2012 que ces tests sont aveugles et le pouvoir politique ne prend pas le relais, c'est-à-dire qu'il n'augmente pas le niveau d'exigence de ces tests avant les autorisations de mise sur le marché de pesticides. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce qui s'est passé depuis 40 ans, c'est-à-dire que chaque génération de pesticides sort du marché parce qu'on se rend compte que c'est pas possible, que c'est trop risqué. Les organochlorés, le DDT, la chlordécone, le lindane, etc. sont sortis du marché dans les années 70 et 80. Ils ont été remplacés par les organophosphorés, les carbamates qui, à leur tour, ont été retirés du marché parce que c'était trop risqué et ils ont été à nouveau remplacés par les néonicotinoïdes dont on se rend compte aujourd'hui qu'ils sont trop risqués aussi. Et donc, il se passe ce qui se passe depuis 40 ans. C'est-à-dire qu'on n'augmente pas le niveau d'exigence réglementaire. On ne prend pas compte, on ne tient pas compte de ce qui est publié par les scientifiques et on réitère les mêmes erreurs. Et c'est exactement ce qui va se produire dans les prochaines années.
Et ces scientifiques indépendants qui nous alertent aujourd'hui, est-ce qu'ils ont l'oreille de Bruxelles ou autre institution qui fixe les normes et les réglementations aujourd'hui?
Pas du tout. Pas du tout. Ils n'ont pas du tout l'oreille de Bruxelles ou des autorités réglementaires. C'est ça qui est très... Ils n'ont tellement pas l'oreille de Bruxelles et des autorités qu'une partie d'entre eux tient à garder une forme d'anonymat. C'est-à-dire que tous ces scientifiques ne sont pas, ne dévoilent pas publiquement tous leur appartenance à ce consortium de chercheurs. Ce qui en dit très long d'ailleurs sur la liberté de parole académique. Quand des chercheurs qui finalement ne font rien d'autre que démontrer que les insecticides tuent les insectes, bien quand ils en sont réduits à cacher leur appartenance à ce groupe, c'est que les choses sont un petit peu problématiques dans la société.
Fabrice Tinculino.
Qu'est-ce que je pourrais ajouter, sérieusement? Non, mais c'est vraiment pure démence. Là, Stéphane Foucart parlait des thèses. Bon, il nous faudrait une autre émission et sans doute plusieurs émissions pour venir à bout de cette question. C'est-à-dire la réglementation, les normes officielles, tout ça a été forgé. Moi, je connais bien cette question-là, Dieu sait, j'y ai passé beaucoup de temps. Ça a été forgé à une certaine époque, par certaines personnes, sous certaines conditions. On peut dire, pour aller vite, que les normes officielles ne veulent plus rien dire du tout.
Il y a une prise de conscience quand même en ce moment. Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, un lien à faire entre à la fois des actions citoyennes, comme celle du collectif d'épisseurs involontaires qui a montré des traces de glyphosate, notamment dans leurs urines, et cette étude de Santé publique France qui est parue début septembre et qui alerte sur les traces de ces polluants du quotidien qu'on retrouve aujourd'hui dans l'organisme des enfants et des adultes?
Écoutez, moi je trouve formidable que des gens payent, parce que c'est cher, c'est au moins 110 euros par personne, paye des analyses pour savoir ce que contient leur urine et qu'elle contient du glyphosate. Bien sûr, je les soutiens sans aucune hésitation, mais néanmoins c'est je dirais pas que c'est dérisoire, mais c'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on est en train de vivre. Et le rapport de Santé publique France dont vous parlez, des rapports de cette sorte, de cette eau-là, figurez-vous, il y en a eu des dizaines, pour peut-être des centaines, sans que rien ne bouge, car il s'agit d'un système organisé, d'un système stable. Le lobby des pesticides et fait partie intégrante de l'appareil d'État. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de consanguinité généralisée entre les structures de protection et le lobby des pesticides. Et tant qu'on ne s'attaquera pas à la structure, on restera à des mesures qui n'en sont pas vraiment.
Mais parce que notre agriculture s'est aussi construite selon ces principes-là, Fabrice Nicolito, selon l'utilisation aussi de ces produits phytosanitaires.
Bien sûr, mais moi j'emploie jamais le mot phytosanitaire parce que c'est une invention de l'industrie. Phytosanitaire, c'est vraiment pour tromper l'opinion. Il s'agit de pesticides. Moi j'ai écrit beaucoup de choses là-dessus, c'est-à-dire que je pense, je suis même sûr, qu'au point de départ, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale, les pesticides sont apparus à tout le monde et j'aurais fait pareil que tout le monde, sont apparus comme une sorte de miracle. La question, elle n'est pas tellement là. En effet, ça paraissait miraculeux. On ne connaissait pas les effets négatifs de ces molécules. Mais à partir du moment où c'est apparu clairement, et je pense notamment à ce livre fantastique de Rachel Carson, celui de 1962 qui s'appelle Printemps silencieux, et auquel le livre de Stéphane Foucart fait référence dans son titre, et bien à partir du moment où on a su la vérité, alors l'industrie agrochimique a refusé de faire machine arrière, a refusé de s'interroger sur la dangerosité de ces produits, et s'est lancée dans une pratique de désinformation, de mensonge, qui dure jusqu'à aujourd'hui. On peut dire qu'aujourd'hui, en 2019, il y a une entreprise délibérée de désinformation, de mensonge et de manipulation.
Vous pouvez le dire et l'établir.
Ah oui, oui, sans problème.
Bon, France Culture, avec nos invités, les journalistes Fabrice Nicolino et Stéphane Foucart, auteurs l'un et l'autre d'enquête de santé publique. C'est la vôtre, Le crime est presque parfait, Fabrice Nicolino, l'enquête choc sur les pesticides et les SDHI, au lien qui libère, ça vient de paraître. Et Stéphane Foucart, auteur de Et le monde devint silencieux, comment l'agrochimie a détruit les insectes, qui paraît en coédition Le Monde et Le Seuil. Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez maintenant sur France Culture, il est 13h20.
France Culture, la grande table, Olivia Jasbert.
C'est toujours optimiste, c'est très bien.
L'optimisme, et oui, il sera de rigueur dans cette émission avec vous, Fabrice Nicolino, et vous, Stéphane Foucard. Débat public et citoyen, il y en a des débats à ouvrir aussi pour que les agriculteurs qui ne font qu'appliquer la loi en vigueur ne soient pas stigmatisés. Ça, c'est une parole qu'il faut entendre aujourd'hui aussi. Mais comment peut-on s'en sortir? Écoutez à ce propos le récit de Bernard Renault, un paysan céréalier à la retraite, qui parle de cette dépendance structurelle des cultures, de ses champs, aux pesticides et aux insecticides.
Quand on humile l'azote, il faut savoir qu'il y a une graminée qui est le vulpin. Et quand on a commencé à mettre l'azote, le vulpin, il s'est développé au niveau des épis de blé. Alors on s'est plaint. Et là, il y avait tout pour nous consoler. Vous mettez 150 grammes d'isopropyron dans de l'eau et vous verrez, vous détruisez le vulpin. Eh bien, j'ai essayé. On détruisait le vulpin et le blé. Le blé était là. Alors on a continué à mettre de l'azote. Et on a tellement une végétation un peu comme celle-ci, très très exubérante. Et qu'est-ce qu'on a maintenu? L'humidité au niveau du sol. Et qu'est-ce qui se passe quand on maintient l'humidité? Le champignon, il arrive. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est monté au niveau de l'épi, et là, il a attaqué l'épi. Alors on a râlé. Ah ben attendez, on a le fongicide. Donc, on a mis le fongicide. Et comme on continuait toujours à mettre de l'azote parce qu'on augmentait les rendements, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Comme on avait un excès de sève dans nos blés, qui vient réguler l'excès de sève? C'est l'insecte. Et on a eu le puceron. Alors, qu'est-ce qu'on nous a dit? Ben, écoutez, on a l'insecticide. C'est-à-dire qu'avec le nitrate, il a fallu utiliser d'abord le désherbant pour le vulpin, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Ensuite, il a fallu utiliser le fongicide pour détruire les champignons et l'insecticide pour détruire les insectes. Le paysan, il est devenu dépendant du nitrate. Donc, c'est une véritable drogue parce que le nitrate a engendré le désherbant, le fongicide, l'insecticide.
Et si le paysan l'est, ses champs aussi, Stéphane Foucard?
Oui, ben on voit bien que les agriculteurs en France, en tout cas une partie d'entre eux, sont plus les otages d'un système que les acteurs véritables de leur destin. Et par ailleurs, tout ce que raconte cet agriculteur, c'est une gestion en fait des problèmes au jour le jour, à court terme, qui finalement ne se préoccupe pas trop de ce qui va se passer dans les 10, 20, 30 ou 40 prochaines années. Or, aujourd'hui, les décisions stratégiques qu'on doit prendre en termes d'agriculture en France, mais partout ailleurs, c'est aussi des décisions qui doivent intégrer le fait que le climat va changer, qu'il va falloir pouvoir s'adapter à des situations très différentes. Et on ne peut pas s'adapter à des situations très différentes si on ne dispose pas de tous les éléments que la nature nous a donnés. Donc y a cette constante tension entre le court terme et les hauts rendements et la durabilité et le long terme qu'il faut gérer.
Dans votre nouveau livre enquête, Fabrice Nicolino, vous montrez comment à peine un produit écarté, c'est un autre qui surgit, peut-être tout aussi dangereux pour la santé, d'où votre appel à une remise en cause du système dans sa globalité.
Ah, oui, bien sûr. Écoutez, non, j'ai fait ce livre tout simplement parce que des scientifiques ont lancé une alerte sensationnelle. Des scientifiques de premier plan, des scientifiques de réputation mondiale. En tout cas, c'est le cas de Pierre Rustin et aussi de Paul Béni qui travaille avec lui. Donc c'est un appel extraordinaire puisque ces gens-là qui n'ont aucun rapport avec quelques militants que ce soit ont pris leurs responsabilités scientifiques et ont découvert par hasard l'existence de SDHI. SDHI, ça veut dire succinate déshydrogénase inhibiteur. Ce sont des fongicides, donc des pesticides qui s'attaquent aux champignons et aux moisissures dans les récoltes, eh bien, ils ont découvert par hasard l'existence de SDHI qui s'attaque à ce qu'on appelle la SDH, c'est-à-dire la fonction respiratoire des champignons. Donc, ils tuent, en s'attaquant à cette fonction respiratoire, ils tuent les champignons, fort bien, c'est leur cible. Mais les scientifiques, ces scientifiques de réputation mondiale qui travaillent sur des maladies qu'on appelle mitochondriales et qui sont potentiellement très graves, puisque ça peut développer des maladies neurologiques fort lourdes, ça peut provoquer des cancers, donc il s'agit de quelque chose de très grave. Ces scientifiques ont dit... Eh bien, épandre partout, parce que les SDHI, sans que personne ne le sache en France, sont épandus sur 80% des surfaces de blé, sur les arbres fruitiers, les semences, les tomates, les pommes de terre.
Comment ça que personne ne le sache?
Mais personne ne le sait. Le sigle SDHI est totalement inconnu. J'en ai fait l'expérience. Vous demandez à n'importe quel paysan de France, en tout cas, tous ceux que j'ai interrogés sur le sujet m'ont dit, ces SDHI, ils ne connaissent pas. Les fabricants ont lancé une nouvelle gamme chimique, les SDHI, sans aucune précaution. Vous avez des scientifiques qui disent, mais attention, nous on a fait des analyses avec vos SDHI, et ça montre qu'ils s'attaquent non seulement aux champignons pathogènes, mais aussi aux cellules de vers de terre, mais aussi aux cellules d'abeilles, mais aussi aux cellules humaines, avec le risque de voir apparaître donc des maladies très graves. Ils ont lancé cette alerte formidable. Moi, je les applaudis à tout rompre. Seulement, l'ANSES, c'est l'agence de sécurité sanitaire, c'est l'agence publique qui est chargée de nous protéger, n'a rien voulu entendre. Elle s'est tue pendant 6 mois, elle a envoyé promener, excusez-moi le mot, et c'est ça l'expression juste, elle a envoyé promener par le silence pendant 6 mois Pierre Rustin et ses collègues scientifiques, qui sont 9 au total, et au bout de 6 mois, étant entendu que l'alerte était devenue publique et qu'ils étaient obligés de réagir, ils ont accepté un rendez-vous, à la suite duquel, un rendez-vous épouvantable, puisque ces scientifiques qui viennent lancer l'alerte, on les reçoit comme des chiens dans un jeu de quilles. Certains d'entre eux, figurez-vous, m'ont dit « ça a été la pire journée professionnelle de ma vie ». Ils sont reçus au siège de notre agence de protection pour lancer une alerte sensationnelle. On les reçoit de cette façon-là. À la suite de ce rendez-vous de juin 2018, il y a eu un groupe d'expertise collective d'urgence, un GQ, qui a été constitué par l'ANSES avec 4 scientifiques. J'ai pas le temps de tout raconter. Mais tout ça a débouché pour moi, sur quelque chose d'épouvantable, un rapport qui signifie en clair que les SDHI ne posent pas de problème. Donc, contredisant l'avis scientifique. Or, l'ANSES, notre agence de protection, c'est le sens de mon livre, l'ANSES fait partie du lobby des pesticides et du même coup est absolument incapable, dans la situation présente, de protéger la population française contre ce qui apparaît comme un véritable nouveau danger très grave.
En tout cas, elle ne s'appuie pas sur les mêmes expertises et ces expertises-là n'indiquent pas les mêmes conclusions.
Je suis désolé de vous contredire, mais c'est pas ça l'affaire. C'est que l'ANSES a écarté de l'expertise le savoir scientifique de Pierre Rustin et ses collègues qui avaient une connaissance unique en France sur le sujet.
Alors,
ils n'ont pas voulu les entendre.
Pardon ? Vous demandez quoi aujourd'hui ? Que toutes les voix soient entendues ? Qu'est-ce que vous espérez à travers ce livre enquête, à travers le mouvement
Il faut que quelque chose casse. C'est pas la peine de se cacher derrière son petit doigt. Il faut que quelque chose casse dans ce système. Vous avez tout à l'heure, on a entendu un paysan, et moi je comprends très très bien. On se bat, le mouvement de l'appel des coquelicots, qu'on peut encore signer d'ailleurs sur le net, cet appel des coquelicots, il ne se bat pas du tout contre les paysans. Nous, on veut des paysans. On pourrait appeler notre mouvement, nous voulons des coquelicots et nous voulons des paysans. On veut des paysans. Seulement, on se bat contre une pratique agricole. Ça n'a rien à voir. On veut beaucoup de paysans en France et on veut que cette pratique agricole infâme, qui est d'utiliser un poison sur les cultures, cesse. Et ce que je veux vous dire, c'est que je connais un homme, Paul-François, à qui ce livre est d'ailleurs dédié, qui est un agriculteur victime de Monsanto. Eh bien, Paul-François, dans son exploitation de Charente, sur 240 hectares de céréales, donc c'est un gros paysan de Charente, eh bien, il a fait passer toute son exploitation en bio. Et cet homme-là, qui est un paysan tout à fait conventionnel, qui a croisé, hélas, la route de Monsanto et ses produits, eh bien, cet homme-là est capable de vous dire, si vous l'invitez, vous verrez, il est capable de dire en 5 minutes, de façon très simple, que passer d'une agriculture industrielle chimique à une agriculture biologique, c'est faisable en 3 à 5 ans. C'est faisable techniquement. Maintenant, politiquement et psychologiquement, pour beaucoup de paysans, je comprends que ce soit épouvantablement difficile. Sans un sursaut de la société.
Pourquoi politiquement, sans un appui des autorités, la transition est compliquée à faire ?
Bien sûr, il faudrait mobiliser des moyens colossaux. C'est-à-dire, si le pouvoir politique décidait demain qu'on sort de l'agriculture industrielle et mette sur la table, je sais pas, 10, 15 milliards ou 20 milliards d'euros chaque année pendant 10 ans, on pourrait sortir de l'agriculture industrielle. Le problème, c'est que le pouvoir ne le fait pas. Donc il y a des obstacles de toute nature, mais la seule direction, c'est arrêter tous les pesticides.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci Stéphane Foucard et Le Monde devint silencieux. Votre livre-enquête vient de paraître au Seuil. Merci Fabrice Nicolino. Le crime est presque parfait, l'enquête choc sur les pesticides. Votre ouvrage a paru aux éditions Les Liens.
Jeudi prochain, le 12.
Exactement, pardon.
Pour le premier anniversaire du mouvement des coquelicots.
Dans 2 jours, voilà. À la réalisation aujourd'hui, c'était Gilles Blanchard. Merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez. À Auréane Delacroix, avec Henri Leblanc et l'aide précieuse de François Bréus et de Sophie Marty. À la technique aujourd'hui, c'était Valentin Bobinet et à la vidéo, Laurie Vacheron. Une émission La Grande Table à réécouter si vous le souhaitez sur franceculture.fr. Je vous souhaite un très bel après-midi et à demain.